mois d'aviron.
D'accord. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mois d'avion. Moi, je dis silence, mois d'avion.
Silence, c'est quoi?
Bah, silence, en silence.
Ah, ben, silence, bon. Je sais pas ce que ça veut dire. Comment ils font?
Bon, on va reprendre nos débats. Donc, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes prêts donc, à discuter cet après-midi, malgré la chaleur, mais il vaut mieux ça que la pluie. Donc, comme on en a parlé ce matin, on a dit en fait que les nanos, c'était un sujet très complexe, d'où la nécessité de solliciter toutes les disciplines. Donc, à chaque fois qu'on a organisé ces journées sur les nanos, on a demandé à des juristes d'intervenir. Donc, je remercie beaucoup Bérangère Legros d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Vous avez changé votre titre. Vous m'avez dit, non, ce n'est pas les nanotechnologies, on va faire plus large, on va parler des nanos. Donc, je vais reprendre vos qualités, bien entendu. Vous êtes maître de conférence HDR à l'Université de Lille, Centre droit et perspective du droit. Donc, le titre de votre conférence sera « La rencontre entre nano et droit ».
Voilà,
voilà. Donc nous vous écoutons et je vous donne une heure. Merci beaucoup en tout cas d'être ici. Merci.
Okay. Alors donc je vais vous parler de la rencontre entre nano et droit. Alors les nanotechnologies. Alors je précise donc je n'ai pas d'image moi. Donc comme vous avez pu le constater, il n'y a pas d'ordinateur. Donc les nanotechnologies, technologies émergentes, ont permis la création de nano-objets tels les nanomatériaux et nanoparticules. Dorénavant présent dans tous les domaines, de la santé à l'énergie, en passant par l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, comme on l'a vu tout à l'heure, l'informatique ou encore les transports. Autant dire qu'elles ont envahi notre vie quotidienne. Les nano-objets se mesurent en nanomètres ou milliardièmes de mètre, soit de 30 000 à 100 000 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Par comparaison de taille, la Terre est à une orange, ce que cette orange est à une particule de 1 nanomètre. Les nanoparticules donnent aux nanomatériaux auxquels elles sont incorporées des propriétés physiques, chimiques ou biologiques particulières, réactivité chimique, robustesse, conductivité thermique ou électrique. Il y a donc création d'une valeur ajoutée avec corrélativement des enjeux économiques. L'Organisation internationale de normalisation distingue parmi ces matériaux manufacturés, d'une part, les nano-objets et d'autre part, les matériaux nano-structurés. Les nano-objets possèdent une à trois de leurs dimensions à l'échelle nanométrique. Ils se présentent sous forme de particules telles que les nanoparticules de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc ou d'or. Ils se présentent également sous forme de fibres, telles que des nanophiles ou des nanotubes, ou encore sous forme de feuillets ou plaques. Les matériaux nanostructurés sont composés d'éléments à l'échelle nanométrique, soit en surface, soit en interne, tels que des agrégats de nano-objets, c'est-à-dire fortement liés ou fusionnés, des agglomérats de nano-objets, plus faiblement liés, ou encore des nanocomposites, nano-objets incorporés dans une matrice. Deux grands procédés de fabrication sont aujourd'hui disponibles. Le procédé ascendant, qui consiste à l'assemblage atome par atome, et le procédé descendant, qui consiste à fractionner un matériau de taille macrométrique jusqu'à obtention de la taille nanométrique recherchée. Si on peut donner un exemple, on peut donner l'exemple des nanoparticules de dioxyde de titane. On les trouve sous la formule TiO2 ou dans l'industrie agroalimentaire sous la formule E171, utilisée dans l'industrie donc alimentaire pour ses propriétés de colorant blanc et d'opacifiant. Il est utilisé dans certains bonbons, des produits chocolatés, des biscuits, des chewing-gums, ainsi que dans des compléments alimentaires, mais aussi dans des dentifrices et des produits pharmaceutiques. Alors, les nanoparticules ont toujours existé dans notre environnement, telles les fumées et les gaz d'échappement. Par ailleurs, leur création manufacturée intentionnelle peut elle-même être montée jusqu'à l'Antiquité pour certains phares et pour la coloration des verres par l'or colloïdal, sans doute à l'époque romaine. Les risques actuels subis ou acceptés ne sauraient justifier que l'on ajoute sciemment de nouvelles particules que l'on pense qu'elles peuvent comporter des risques pour la santé ou l'environnement. On rapproche souvent les risques des nanomatériaux au drame de l'amiante, s'agissant de la nécessité de se référer au principe de précaution, en particulier du fait d'un rapprochement, qu'il soit avéré ou non, des effets toxicologiques de l'amiante avec certains nanotubes de carbone. La particularité des nanotechnologies à l'heure actuelle est qu'elles donnent lieu à la création intentionnelle de manière exponentielle dans le cadre d'une concurrence internationale exacerbée de nano-objets ayant des réalités très différentes, très diverses, entraînant d'ailleurs des problèmes de définition tant au niveau européen qu'au niveau interne, illustrant la difficulté d'une définition scientifique destinée à des fins juridiques. Comme on l'a vu tout à l'heure, il existe des nano-objets à usage médical qui donnent des outils diagnostiques dans l'imagerie moléculaire in vivo où on utilise des nanoparticules dans l'imagerie non-invasive comme agent de contraste, se liant à des biomarqueurs spécifiques et les rendant visibles à l'intérieur du corps. Il existe d'autres nano-objets à usage médical qui, là, sont des outils thérapeutiques, tels les nanocapsules délivrant des médicaments de manière ciblée. Alors, dès lors que ces nanostructures sont à usage médical, le patient, pris en charge par son médecin, le sachant, devra avoir conscience de cette exposition, la traçabilité étant alors nécessairement assurée. A l'inverse, c'est loin d'être le cas pour les nano-objets qui ne sont pas à usage médical, auxquels sont exposés le travailleur qui les fabrique et ou qui les utilise, ainsi que le consommateur, dont la femme enceinte en particulier, et la population en général, qui achète des produits de consommation dans lesquels ils sont incorporés. Les nano-objets sont donc de l'ordre de l'invisible, ce qui est problématique car en dehors du champ médical, l'être humain exposé ne dispose pas nécessairement de l'information sur leur présence dans leur environnement et ne peut en conséquence pas, s'il le souhaite, se prémunir, prendre des précautions ou simplement avoir la possibilité de ne pas s'exposer. L'impact potentiel des nano-objets fait partie de ce qu'on appelle les risques sanitaires émergents, dont la particularité est qu'il est impossible de les évaluer en l'état actuel des connaissances, d'autant qu'il n'existe aucune méthode standardisée pour le faire, chacun ayant une formulation ou une matrice différente et unique. Chaque nanomatériau possède donc un potentiel de toxicité qui lui est propre. Or, face à ces produits relevant d'avancées technologiques, les connaissances sur les éventuels risques et dangers pour la santé et l'environnement sont insuffisantes. D'aucuns évoquent d'ailleurs plus l'incertitude que le risque. Pour illustrer ces interrogations, on peut prendre l'exemple du nano-argent utilisé pour ses propriétés antibactériennes. Un rapport de 2015 de l'ANSES à propos du nano-argent énonce d'une part qu'il pourrait décupler le risque d'une résistance accrue aux bactéries et affaiblir encore l'efficacité des antibiotiques, mais aussi, au vu de l'expérimentation animale, favoriser le passage à travers les barrières physiologiques, hémato-encéphaliques, phytoplacentaires, cutanées, intestinales et testiculaires, sans compter les effets cliniques et comportementaux. Le nano-argent pourrait également avoir des effets préoccupants sur les organismes aquatiques et terrestres. Si l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, cette loi qui s'appelle, son titre, c'est « Loi portant engagement national pour l'environnement ». Donc si l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui prévoit une déclaration obligatoire des substances à l'état nanoparticulaire, a permis de dresser un premier état des connaissances de l'identité, des usages et des quantités des nanomatériaux produits, importés et distribués en France. Cet état des lieux met en évidence l'absence de déclaration concernant les nanoparticules d'argent, alors même que des produits de consommation contenant de telles nanoparticules sont identifiés sur le marché français. Preuve de l'inadaptation de la régulation mise en place, avec les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés en matière d'information du public. La spécialiste, Madame Stéphanie Lacour, donne une explication à cette non-inclusion qui pourrait être que la définition donnée dans la loi Grenelle 2 et dans son décret d'application est une définition trop restrictive, dans laquelle les nano-argents ne se retrouvent peut-être pas. Alors, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau international, est apparu alors nécessaire de définir les nanomatériaux et d'élaborer une stratégie au sujet de leur développement, sûr, intégré et responsable. Cette préoccupation au niveau de l'Union européenne a donné lieu à des définitions des nanomatériaux multiples et sectorielles. Par exemple, on peut donner la définition de la Commission européenne par une recommandation de 2011 qui constate que le terme nanomatériaux n'est spécifiquement mentionné dans aucun texte législatif de l'Union et elle en donne une en 2011. On entend par nanomatériaux un matériau naturel formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres sous forme d'agrégats ou sous forme d'agglomérats dont au moins 50% des particules dans la répartition numérique par taille présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Elle précise d'ailleurs dans cette recommandation que cette définition devrait servir de référence pour déterminer si un matériau doit être considéré comme un nanomatériau aux fins de la législation et des politiques de l'Union. La Commission ajoute que cette définition se fonde uniquement sur la taille des particules constitutives du matériau, à l'exclusion de toute considération relative aux risques ou en danger ou aux dangers qu'il peut présenter. Alors, cette définition est en cours de révision et elle a pour objet de servir de référence à des fins législatives dans l'Union européenne ou dans les États membres. En France, selon l'INRS, la définition figurant dans le décret d'application de la loi Grenelle 2 lui correspond en substance. Alors, le décret d'application de la loi Grenelle 2 précise, en schématisant, qu'une substance à l'état nanoparticulaire est une substance chimique fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique contenant des particules non liées ou sous forme d'agrégats ou sous forme d'agglomérats dont une proportion minimale des particules dans la distribution des tailles en nombre présente une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Donc là, c'est une recommandation de la Commission. Une recommandation n'est pas obligatoire. On suggère deux. Alors, parallèlement à cette recommandation, l'Union européenne a adopté trois règlements, dont l'objectif est l'intérêt du consommateur, et plus particulièrement son information sur certains produits. On peut citer trois règlements qui ont une portée au niveau de l'étiquetage des produits. On a trois domaines, je vais citer trois domaines, la cosmétique, les biocides et l'alimentation. Et il faut savoir que d'un point de vue juridique, quand on parle règlement, ça veut dire qu'ils sont d'application directe dans le pays membre. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un contentieux en disant vous n'avez pas respecté le règlement directement sans qu'il y ait de texte d'application en droit interne. On peut, en justice, invoquer directement le règlement. Alors, prenons tout d'abord le règlement du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et plus particulièrement avec son article 19. C'est l'article 19 qui prévoit l'information des consommateurs sur l'étiquetage. Et suite à ce règlement, la règle d'étiquetage doit préciser le terme nano entrecroché après le nom de l'ingrédient concerné. Par exemple, dans le cas du TiO2, il faut indiquer titanium dioxyde nano. Alors, cette définition du nanomatériau qu'on retrouve dans ce règlement est un peu différente de la définition qu'on retrouve de celle proposée par la Commission en 2011. C'est la suivante. Un nanomatériau est un matériau insoluble ou biopersistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes ou une structure interne sur une échelle de 1 à 100 nanomètres. Alors, pour certains, avec cette définition, il suffit pour l'industrie cosmétique d'utiliser des nanomatériaux dont la taille dépasse tout juste les 100 nanomètres. Comme ça, ils n'ont pas indiqué la mention nano. Ensuite, autre règlement, c'est le règlement de 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Alors rappelons qu'un produit biocide, dans les produits biocides, on se trouvent les substances actives destinées à éliminer les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale, principalement les désinfectants ménagers et industriels, les bactéricides, les fongicides ou encore les insecticides. Alors, dans ce règlement, ce qui nous intéresse, c'est l'article 69 qui prévoit l'information sur les produits biocides. Et à cet article 59, il est prévu que d'un point de vue étiquetage, on doit indiquer donc la présence de nanomatériaux dans les produits biocides. Avec le terme nano, ici, on indique entre parenthèses et non pas entre crochets. Donc, entre parenthèses, après le nom de l'ingrédient. Et ce qui est intéressant dans cet article 69, c'est qu'en outre, il doit être précisé dans l'étiquetage les risques spécifiques éventuels qui y sont liés. Ensuite, dernier règlement que j'ai choisi, c'est le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement INCO. Alors, ce règlement devait entrer en vigueur en 2014 et pour différentes raisons, il n'est entré en vigueur que suite à un autre règlement. Un règlement du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments qu'on appelle règlement Novel Foods. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est son article 18, que je résume, est un nanomatériau au sens de ce règlement, puisque ce sont des définitions sectorielles. Tout matériau produit intentionnellement, présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nanomètres ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent, et là c'est intéressant, qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nanomètres, mais qui conservent des propriétés typiques de l'échelle, de la nanoéchelle. Donc on constate qu'au niveau européen, on a différentes définitions. On a la définition générale de la Commission, on a des définitions sectorielles par règlement. Alors, il faut savoir que la définition de la Commission européenne est en cours de révision. Et on ne sait pas finalement si elle s'appliquera à tous les domaines. Est-ce que finalement, ça va également s'appliquer aux autres pans, aux autres domaines tels ces règlements? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, donc, à l'heure actuelle, les nano-objets manufacturés font donc l'objet d'une création exponentielle. Alors, d'une part, par les industriels, mais aussi par les laboratoires de recherche au stade de la pré-industrialisation. Alors en France, on a un organisme qui s'appelle l'ANSES qui intervient. Il a plusieurs missions. Tout d'abord, il intervient pour évaluer les risques dans son champ de compétences, en l'occurrence dans la sécurité sanitaire humaine, dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Et d'autre part, il doit fournir une expertise, l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires. Ça veut dire que finalement, il doit aider le créateur de la norme pour créer la norme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est lui qui doit aiguiller, on va dire. Alors l'ANSES parallèlement réalise des travaux portant sur l'évaluation des risques sanitaires et des enjeux sanitaires associés aux nanomatériaux. Alors les questionnements suscités par les nanomatériaux manufacturés se situent tant lors de leur production, leur transformation ou leur intégration, leur utilisation ou, en fin de vie, lors de leur traitement et de leur recyclage. Par ailleurs, il s'avère qu'ils présentent des caractéristiques physico-chimiques souvent très différentes des substances de taille nanométrique présentes dans le milieu ambiant naturel ou produites non intentionnellement par divers processus industriels ou domestiques. Alors, le créateur de la norme juridique, en droit interne, s'interroge donc sur les risques auxquels sont exposés les consommateurs et, de manière générale, toutes les personnes qui acquièrent des produits contenant des nanomatériaux, mais aussi celles qui les produisent, les transforment ou les intègrent à des produits. Et c'est la protection de ces dernières, les travailleurs, face aux nanomatériaux, sur laquelle nous allons nous attarder. En effet, la création exponentielle de ces nano-objets accroît le nombre de travailleurs en France susceptibles d'être exposés, leur nombre étant actuellement estimé à plus de 5000 salariés en entreprise et 7000 chercheurs dans les laboratoires. En Europe, on estime à peu près que les nanotechnologies emploieraient aujourd'hui 300 000 à 400 000 personnes. Donc ces personnes travaillent sur les nanomatériaux, alors que parallèlement, la question de l'évaluation des risques les concernant reste entière dans un contexte d'incertitude, ce qui complexifie la démarche de gestion des risques. Ne doivent pas être occultés, bien évidemment, dans la démarche de régulation, les nano-objets naturels ou formés accidentellement, tels les particules ultra-fines, émises par des procédés techniques ou mécaniques. Alors, le travailleur qui fabrique les nanomatériaux ou qui les utilise, est-il suffisamment protégé par le droit ? C'est à cette question que je vais tenter de répondre. Les normes actuelles sont-elles adaptées à sa protection ? Quelle est en définitive la régulation normative choisie pour concilier l'introduction des nanomatériaux et la protection de la santé des travailleurs ? Alors la question semble d'ailleurs se poser sous un autre angle que d'autres substances pouvant altérer la santé du salarié, telles les substances CMR, c'est-à-dire les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En effet, ces substances dont font partie l'amiante sont répertoriées comme dangereuses pour la santé. Or, bon nombre de nanomatériaux manufacturés relèvent de la catégorie des risques chimiques sanitaires émergents. Sans compter que si l'effet de la taille des particules peut influer, pour autant, tous les nanomatériaux ne présentent pas les mêmes dangers, comme on l'a vu tout à l'heure. Et dans ce domaine, il y a une connaissance insuffisante des expositions professionnelles. Par ailleurs, contrairement à un matériau comme l'amiante, en l'état actuel des connaissances, il n'existe aucune méthode standardisée pour les évaluer, ce qui complique la tâche du créateur de la norme. En effet, même si les dangers de certains sont ou seraient parfaitement connus, il est quasiment impossible d'évaluer les risques qui sont associés à leur développement, ces derniers dépendant de données d'exposition dont on ne dispose pas. En effet, même s'il y a surveillance, on ne sait pas quand une maladie professionnelle pourrait se déclencher et laquelle. S'agissant des nanomatériaux dans ce contexte, il est donc impossible d'établir une relation certaine a priori entre l'exposition aux nanomatériaux et un effet sanitaire. Alors, comment réguler ? Précaution ? Prévention ? Interrogeons-nous d'abord préalablement sur l'influence de ces principes en droit du travail. Ce sont des principes dont la philosophie est bâtie sur la même logique d'anticipation des risques. Le principe de précaution intervient en amont de la prévention. La prévention est destinée à faire face à un événement dangereux prévisible qui a déjà pu se produire dans le passé. Dans ce contexte, on peut évaluer sa probabilité de survenance. Les risques sont avérés. Le principe de précaution, quant à lui, consiste à éviter un risque potentiel dont la réalité n'est pas complètement certifiée parce que les premières conséquences n'ont pas encore été observées. La mise en œuvre du principe de précaution pour les décideurs, pour les responsables, de ne pas attendre les résultats scientifiques définitifs quant à l'existence des dommages pour s'en saisir. Ils doivent au contraire agir le plus en amont possible pour mieux connaître le danger, le prévenir ou en limiter les effets. Entre prévention et précaution, c'est la connaissance du risque qui diffère. Le principe de précaution n'implique pas d'interrompre une activité ou un projet en cours jusqu'à obtention des preuves de leur non-dangerosité. En revanche, il s'accompagne d'une évaluation permanente des connaissances produites, soit afin de donner naissance à une action préventive, soit dans le but de libérer l'activité en levant l'hypothèse du risque. Comme l'ont mis en lumière plusieurs auteurs, en dépit du décloisonnement du principe de précaution du droit de l'environnement par sa constitutionnalisation en 2005, le droit du travail n'est guère influencé par le principe de précaution. Le principe de précaution est un principe constitutionnel, mais aussi un principe général du droit communautaire ayant valeur contraignante. Il exprime la primauté des exigences liées à la protection de la santé sur les intérêts économiques. Il s'applique donc par extension aux risques pour la santé publique et pour la santé des travailleurs. Or, même si pour un auteur, le professeur Eric Namjesberg, il doit en principe précéder le principe vigie de prévention, en droit du travail, il n'y a pas de mesure de précaution adoptée par l'autorité publique pour anticiper la survenance de ces risques incertains qui seraient traduits dans une obligation juridique s'imposant à l'employeur et qui, en cas de violation, constituerait une faute de précaution. Il n'y a pas de véritable norme de précaution dans le droit du travail, car celui-ci reste encore étranger aux risques incertains. Alors, le droit social en général et le droit du travail en particulier se saisit donc de ce phénomène au titre de la prévention, même si certaines dispositions ou mobilisations des préventeurs relèvent davantage du principe de précaution. La prévention est le levier principal qui est utilisé pour prévenir les risques dans l'entreprise. Cette prévention a-t-elle pris la mesure de la caractéristique particulière de ces risques émergents ? Doit-on inciter davantage les employeurs à agir dans une prévention différente, dès à présent, dans le doute, dans un contexte d'incertitude ? En effet, il devient indispensable pour les employeurs, sous peine d'engager leurs responsabilités à moyen ou à long terme, de caractériser les nano-objets manufacturés sur le lieu de travail, sachant que leur caractérisation, comme l'a souligné précédemment la Commission européenne, n'induit pas nécessairement des risques ou des dangers. Leur caractérisation se fonde uniquement sur la taille des particules du matériau. Intéressons-nous donc aux nanomatériaux et à la protection de la santé du travailleur. Alors, l'employeur, pour le moment, dispose des moyens conventionnels de prévention des risques face à son choix d'introduire des nanomatériaux dans le processus de production. Il n'y a en effet, à l'heure actuelle, aucune méthode de métrologie adaptée ou dite de routine pour les entreprises, et encore moins une métrologie consensuelle. Or, elle est un préalable à l'étude des postes de travail. Donc, à défaut de connaissances sur la toxicité des matériaux, l'employeur doit donc utiliser le droit commun de la prévention et il va se conformer à ses obligations vis-à-vis du salarié qui sont visées dans le Code du travail, c'est-à-dire prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant un certain nombre de mesures. Alors, je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord, dans les principes généraux de prévention, on a évité les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, ou encore remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, ou par ce qui est moins dangereux, ou encore prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Par ailleurs, il est prévu dans le Code du travail que, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, l'employeur évalue les risques pour la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des substances ou préparations chimiques, et qu'à la suite de cette évaluation, il met en œuvre les actions de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production, garantissant un meilleur niveau de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Or, le problème est qu'en l'état actuel des connaissances, il n'est pas à même d'évaluer ces risques, et donc de créer un processus de gestion des risques. Alors, l'employeur peut-il réellement prévenir, voire limiter cette exposition ? À l'heure actuelle, il n'a pas été défini dans les normes françaises et européennes de valeur limite d'exposition professionnelle pour les nanomatériaux. Certes, il existe des valeurs limites d'exposition relatives à différentes catégories de poussière, mais elles ne sont pas pertinentes nécessairement en l'état pour les substances sous forme nanométrique. En raison de l'insuffisance des connaissances actuelles sur la toxicité des nanomatériaux, les acteurs de la prévention doivent donc rechercher le niveau d'exposition le plus bas possible, compte tenu des connaissances encore limitées sur la toxicité, la prévention des risques reposant principalement sur la limitation des expositions professionnelles, c'est-à-dire niveau d'exposition, durée d'exposition, nombre de salariés exposés. Alors, indépendamment du droit commun de la prévention, la régulation juridique va se faire également par le truchement d'autres dispositions du Code du travail. En effet, qu'est-ce qu'un nanomatériau ? C'est une substance chimique. Donc, on va pouvoir utiliser les règles spécifiques à la prévention du risque chimique. Et on va pouvoir également utiliser les dispositions particulières aux agents chimiques CMR. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu palliatif. On fait ce qu'on peut. Et donc, les préventeurs ont dû créer d'autres procédures, puisque ce n'était pas adapté. Donc, on assiste à un renouvellement de la prévention. Alors, ce renouvellement s'est fait au niveau national, notamment par l'INRS, qui a créé un laboratoire en 2013. Il a créé un laboratoire appelé Pol Nano, qui réunit un ensemble de moyens de recherche sur les risques associés aux nanomatériaux. Ce laboratoire répond aux besoins de réaliser des études de toxicité par inhalation. L'inhalation, c'est la principale voie de contamination possible en milieu de travail. Et ce laboratoire permet de conduire des travaux pour évaluer l'efficacité des équipements de protection collective de type Sorbonne, des appareils de protection respiratoire, ainsi que d'évaluer les performances d'instruments de mesure et de caractériser l'émissivité de nanomatériaux en poudre. Alors, même si l'INRS s'intéresse depuis 2008 aux risques associés aux nanomatériaux, il ne confine pas ses travaux aux seuls nanomatériaux manufacturés. Il s'occupe également des nanomatériaux qui relèvent des puces, comme on a vu tout à l'heure. En ce qui concerne les nanomatériaux, il propose également des formations à destination des chercheurs, donc vous potentiellement, puisque c'est vous qui allez être exposé, c'est vous. Une partie d'entre vous seront exposés. Peut-être vous ne le saurez pas d'ailleurs. Et donc, on propose des formations aux ingénieurs, aux chercheurs préventeurs, aux médecins concernés. Par ailleurs, on a créé un pictogramme de signalisation pour indiquer l'existence d'un risque d'exposition aux nanomatériaux. Parallèlement, les services de l'inspection du travail ont pu constater que, à la différence des laboratoires d'études travaillant sur de faibles quantités, les entreprises produisant des nanomatériaux rencontraient de grandes difficultés pour prendre des mesures de protection adaptées et efficaces. Il leur est notamment difficile de trouver le niveau de protection approprié. Suite à cela, certaines directes ont choisi de décliner dans leur plan régional de santé au travail la prévention de ce risque, les uns par des actions d'information et de sensibilisation des différents acteurs et parties prenantes. Un autre a créé un groupe de travail pluridisciplinaire constitué de médecins du travail, d'entreprises, de services inter-entreprises, d'intervenants en prévention des risques professionnels. Et ce groupe se réunit régulièrement en ayant une triple mission, c'est-à-dire sensibilisation des employeurs et des CHSCT aux risques émergents, nécessitant la création d'outils communs de communication, veille juridique, réglementaire et médicale, ou encore promotion de bonnes pratiques. Par ailleurs, l'INRS propose également des recommandations spécifiques de prévention au-delà de ce que prescrit le Code du travail, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, autre forme de créativité, on a créé ce qu'on appelle l'INVS à l'époque, qui est maintenant l'Agence nationale de santé publique, a créé en 2012 ce qu'on appelle le dispositif épidémiologique EpiNano. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, l'INVS, c'était à l'époque un organisme auquel l'ANSES peut transmettre les informations qu'elle détient au titre de la déclaration des substances à l'état nanoparticulaire. Et donc, l'INRS a développé un dispositif de surveillance des effets sur la santé de l'exposition professionnelle aux nanomatériaux intentionnellement produits. Et comment ça marche ? C'est épidémiologique. En fait, ça repose sur la création de l'enregistrement des travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux, notamment à base de dioxyde de titane et des nanotubes de carbone. Vous voyez, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Le but de cet enregistrement est de développer une cohorte prospective pour pouvoir suivre l'évolution de la santé des travailleurs exposés à des nanomatériaux en France et d'évaluer les risques possibles associés à l'exposition aux nanomatériaux chez l'homme. Alors en fait, ça consiste à aller dans l'entreprise, on fait ce qu'on appelle une visite d'entreprise, et on utilise un outil qui s'appelle le carnet d'observation technique. Donc il y a des gens qui viennent, ils vont relever dans un ordre logique des éléments nécessaires au repérage et à la caractérisation des postes exposants, notamment les procédés mis en œuvre, l'aérolique des ateliers, les équipements de protection, les caractéristiques des nano-objets, les conditions de leur manipulation au niveau du poste de travail. Et en fait, c'est une méthode simple et non instrumentale, sans prélèvement et sans mesure de l'aérosol. Et c'est un outil de collecte d'informations conçu par des épidémiologistes. Et il peut servir à l'ensemble des acteurs de la santé et de la prévention au travail. Alors, autre outil créé par Lancers, bon, en fait, c'est Lancers qui l'a repris, c'est pas eux qui l'a créé, mais ils ont repris cet outil, c'est ce qu'on appelle la méthode de gestion graduée des risques. Alors, c'est présenté comme une solution alternative pour réaliser une évaluation quantitative des risques et mettre en place des moyens de protection des salariés exposés. Et cette méthode a été développée dans l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est un instrument qui combine évaluation et gestion des risques. Et dans ce processus, une évaluation des risques est associée à ce qu'on appelle une bande de maîtrise de risque, proposant des moyens de prévention minimaux à mettre en place, en cohérence avec le niveau de risque estimé, compte tenu des incertitudes. Alors, on va formuler des hypothèses. On va formuler des hypothèses sur les dangers et les expositions. Ainsi, la bande de maîtrise des risques associés et par conséquent les moyens de prévention à mettre en place vont résulter d'une superposition d'hypothèses. Alors, l'ANSES précise que la prévention des risques professionnels ne doit pas se réduire à cette seule démarche de gestion graduée des risques. Autrement dit, l'outil proposé ne doit pas permettre à l'employeur de s'affranchir de l'étape nécessaire d'évaluation des risques et de préconisation des mesures de prévention. L'employeur doit actualiser régulièrement les informations et améliorer continuellement la démarche de prévention. Et à terme, lorsque l'ensemble des données requises deviennent disponibles, l'utilisation d'une approche de gestion graduée des risques cède la place à l'évaluation quantitative du risque. Alors, pour effectuer une telle démarche, il paraît indispensable que l'utilisateur, donc l'employeur, possède un niveau de compétence suffisant dans les domaines de la prévention des risques chimiques, des nanosciences et des nanotechnologies. La mise en œuvre de cette méthode par des entreprises ne disposant pas d'expertise peut conduire à des résultats incomplets qui ne satisferont pas les exigences de prévention des risques professionnels. L'utilisation de cette méthode sans expertise, sans regard critique ou sans accompagnement peut mener à des hypothèses erronées et donc à des choix d'action de prévention non adéquats, induisant potentiellement des risques chez les personnes exposées. Alors, quelle perspective au niveau de la régulation? Parce que là, finalement, c'est un peu du palliatif, on fait ce qu'on peut, c'est pas du droit, mais le droit, pour l'instant, ne peut pas faire grand-chose. Alors, on a au niveau européen, on a REACH. Vous connaissez REACH? Je pense que tout le monde connaît REACH. On a entendu parler de REACH. Alors, REACH, c'est quoi? C'est un règlement. C'est un règlement du Parlement européen de 2006 et qui concerne les produits chimiques. Les produits chimiques, c'est-à-dire qu'il va falloir, on contrôler ce qui se passe au niveau des produits chimiques. Alors, c'est un règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Et en 2006, on a créé ce qu'on appelle l'ECHA, en anglais, donc l'Agence européenne des produits chimiques. Alors, à quoi sert REACH? Alors, le dispositif REACH a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, telles qu'elles ou contenues dans des préparations ou dans des articles, tout en améliorant la compétitivité et l'innovation. Quelque part, ces deux missions sont un peu contradictoires, donc il faut faire une articulation entre la protection de la santé et l'innovation, ce qui n'est pas évident. Alors, le règlement précise que l'Union européenne s'emploie à ce que d'ici à 2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l'environnement soient réduits au minimum. Alors, comment ça se passe avec REACH ? Alors, ce mécanisme repose sur tout fabricant ou importateur de la substance qui a une obligation générale de demander l'enregistrement auprès de l'ECHA des substances telles quelles ou contenues dans des préparations, dès lors, et là il y a un seuil, dès lors que la quantité est de 1 tonne ou plus par an. Alors, le règlement repose sur le principe pas de données, pas de marché. C'est-à-dire que quand, sans connaissance sur les substances utilisées, il y a interdiction de les mettre sur le marché. Donc le déclarant doit donc constituer un dossier technique informant sur l'ensemble des utilisations identifiées. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition, la classification et l'étiquetage de la substance, les conseils d'utilisation, notamment en respectant ce qu'on appelle le niveau dérivé sans effet, c'est-à-dire le niveau maximum d'exposition à la substance auquel l'être humain peut être soumis et qu'il a évalué. Alors, quelle est l'articulation entre REACH et les nanomatériaux ? Alors, s'agissant des nanomatériaux, il n'y a aucune disposition spécifique les concernant dans le règlement REACH, c'est-à-dire qu'ils sont assimilés à des substances chimiques classiques. De nombreux acteurs, dont l'OCDE, ont jugé que seule une minorité des méthodes physico-chimiques peut être appliquée aux nanomatériaux et que finalement ce règlement est inadapté aux nanomatériaux. En l'état, le règlement REACH n'est donc que partiellement applicable aux nanomatériaux, notamment en raison des seuils de déclenchement élevés en quantité produite prévue par la procédure. Alors la Confédération européenne des syndicats, donc qui protège les intérêts des travailleurs, préconise en conséquence d'abaisser les seuils de déclenchement pour l'enregistrement des nanomatériaux, voire de créer une autre forme de norme pour tenir compte de la spécificité des nanomatériaux. Alors il faut savoir que REACH est notamment en cours de révision, en cours de modification, et pour l'instant, on attend. Alors que fait-on au niveau interne ? Le législateur, finalement, il se concentre non pas dans une création de la norme, mais il a fait des choses dans ce qu'on appelle le plan santé au travail. Donc c'est du droit du travail et qui concerne le travail en général. Donc plan santé au travail 2016-2020. Et lui, il axe sa stratégie sur la prévention primaire et le développement de la culture de la prévention. C'est-à-dire on va développer des leviers qui vont être l'information. On va vous tenir au courant, vous travailleurs, on va vous former comment faire pour vous protéger et on va parallèlement évaluer les risques et on va revoir la conception des environnements de travail. Alors, dans les choses que préconise ce plan, on a notamment une campagne de mesurage sur les nanomatériaux, mais quel type de nanomatériaux va-t-on évaluer ? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors finalement, ils ont choisi de faire un ciblage spécifique dans le secteur du bâtiment, travaux publics, et donc une information dans les secteurs les plus concernés, les plus exposés. Ils demandent également qu'on développe le fameux dispositif dont je vous ai parlé, EpiNano. Et ils demandent également qu'il y ait une amélioration au niveau du cadre réglementaire de l'Union européenne. Alors, en attendant la modification du règlement REACH, d'autres moyens peuvent être utilisés par l'employeur pour assurer une prévention plus efficace, grâce à l'information provenant en particulier de ce qu'on appelle la fiche de données de sécurité. En effet, le règlement prévoit que, après l'enregistrement de la substance chimique, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement, sans retard excessif, en y ajoutant des informations nouvelles, pertinentes, et le soumettre à l'agence, notamment en cas de connaissance nouvelle sur les risques. Cette fiche est un outil de prévention et de transparence du fournisseur jusqu'au client. Alors le problème, c'est que l'INRS a mis en lumière que les données transmises aux utilisateurs, notamment dans les fiches de données de sécurité, et les fiches techniques, sont généralement incomplètes, absentes, et bien souvent les opérateurs donc potentiellement vous, manipulent des nanomatériaux sans même le savoir. Ce défaut d'information constitue donc un frein à la prévention. Il importe donc de faire évoluer le contenu des fiches de données de sécurité. Et la Confédération européenne des syndicats préconise d'ailleurs qu'on élabore des fiches de données de sécurité spécifiques aux nanomatériaux. Certains m'ont même dit, un médecin de travail m'a dit, ce qui serait bien aussi, c'est que ces fiches soient en français et pas en anglais, parce que si c'est en anglais, on ne sait pas. Donc finalement, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du travailleur lui-même ? Lui, est-ce que le travailleur peut se défendre ? Ses représentants peuvent-ils le défendre ? Eh bien, oui, puisque nous avons ce qu'on appelle un comité d'hygiène et de sécurité, ce qu'on appelle le CHSCT dans les entreprises, et le CHSCT a théoriquement les moyens de faire entendre sa voix. Est-ce qu'il ne doit pas mobiliser davantage son droit à l'information pour représenter les salariés et les protéger ? Ne doit-il pas avoir recours plus régulièrement à un expert agréé, puisqu'il le fait, le Code du travail le lui permet. Le lui permet notamment dès lors qu'un projet important modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Et puis précisément dès lors que ce projet va entraîner une transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage et surtout découlant d'un changement de produit. Par ailleurs, il existe ce qu'on appelle, depuis 2013, et peut-être certains sont au courant, de ce qu'on appelle un droit d'alerte. Un droit d'alerte en matière de santé et d'environnement. Et ce droit, d'ailleurs, protège les lanceurs d'alerte. Alors, ce droit d'alerte, qui relève finalement du principe de précaution, permet à tout travailleur, dont vous potentiellement, s'il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, il doit alerter immédiatement l'employeur et l'employeur doit l'informer de la suite qu'il a réservée à cette alerte. Et s'il ne répond pas dans le mois, là, on va pouvoir saisir le représentant de l'État dans le département. Alors, il faut savoir que ce droit d'alerte existe également pour le CHSCT, dans le même texte. Alors, dans ces textes, on peut donc recourir à l'expertise. Et on introduit finalement la possibilité de mettre en œuvre le principe de précaution. Mais encore faut-il que les acteurs du monde du travail qui disposent de cette faculté l'utilisent. Quelle vérité pour autant va-t-on obtenir ? Pour Eric Namjesberg, c'est sur l'éthique que repose au final l'établissement des seuils raisonnables d'acceptabilité des risques, seuils hybrides qui entremêlent la science et le droit afin de faire surgir une certaine vérité. S'ajoute à cela qu'il est indéniable, comme l'a pu l'énoncer Madame Lacour, Stéphanie Lacour, que sans l'attente économique actuelle, le risque jugé acceptable aurait sans doute été autre. L'équilibre aurait été inévitablement modifié et les nanos n'auraient probablement pas atteint le stade de développement qui est le leur aujourd'hui. Alors, après examen de la régulation actuelle en droit du travail, on reste néanmoins avec un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de la protection du travailleur. Quid d'une réelle protection au titre d'une réparation à moyen ou à long terme ? En l'absence davantage de réactivité de la norme ? Va-t-on devoir attendre que vous soyez malade, vous les travailleurs ? Va-t-on devoir attendre un scandale du même type que l'amiante ? C'est-à-dire, est-ce que le salarié ne sera protégé qu'a posteriori au titre d'une réparation, au titre des maladie professionnelle, c'est bien l'origine de maladie professionnelle, est très intéressant, c'est du 100%, encore faut-il que vous viviez longtemps. Alors, est-ce qu'il pourra d'ailleurs, ce travailleur qui sera malade suite à ses conditions de travail, pourra-t-il bénéficier d'une réparation plus large que la réparation forfaitaire de droit commun, au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ? Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir caractériser une faute inexcusable qui va faire qu'on va aller au-delà de la réparation forfaitaire ? Parce que pour avoir une faute inexcusable, il faut que l'employeur ait eu conscience de ce qu'il faisait. Or, à l'heure actuelle, on est dans l'incertitude. Donc, il peut dire, je ne pouvais pas avoir conscience puisqu'on ne savait pas. Donc, finalement, on est c'est un peu décevant. Donc, alors, si on reste sur le plan de la réparation, qui est finalement assez décevante sur le plan juridique et même éthique, indépendamment de la protection des salariés qu'on vient de voir, comment va-t-on procéder pour indemniser le consommateur, donc vous, qui, sans le savoir, avez mangé trop de certains types de bonbons, qui avez utilisé un peu trop de crème solaire, parce qu'elle était fine et qu'elle n'était pas blanche. C'était beau sur le plan esthétique. Comme je disais tout à l'heure, le problème de l'accessibilité sociale, est-ce qu'il vaut mieux finalement avoir une crème où on ne voit rien, c'est très joli, ou avoir une crème toute blanche, un peu épaisse, mais au moins protégée finalement. Parce que finalement, si vous acceptez de prendre la crème qui est toute fine, c'est que finalement, vous acceptez. Vous acceptez. Alors, question qui se pose au titre de la réparation, peut-être pas maintenant, hein, parce que le temps que ça se fasse, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le régime des produits défectueux ? D'ailleurs, est-ce que ce régime de responsabilité est adéquat ? En raison notamment des effets différés, parce qu'on est en effet différés là, et qui seront difficilement identifiables. Et le problème, c'est qu'on a un régime de responsabilité des produits défectueux, mais il y a une exonération potentielle dans ce régime. Au titre du risque de développement, ça veut dire que vous ne pourrez pas attaquer sur le régime des produits défectueux parce qu'on ne savait pas. Alors, est-ce qu'on va devoir créer un régime de responsabilité spécifique ? D'ailleurs, est-ce qu'on pourra assurer de tels risques ? En outre, quid de l'acceptabilité sociale de ces nouveaux objets ? Parce que pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, il va falloir que l'information soit réelle pour le consommateur. Et alors là, si l'information est réelle, il y aura un risque accepté et vous ne pourrez plus rien faire puisque vous l'avez accepté. Alors, qu'est-ce qui se passe si finalement je constate que j'ai utilisé des produits et qu'il n'y avait pas la mention nano ? Est-ce que je vais pouvoir attaquer ? Bon, pas tout de suite, évidemment, dans 10 ans peut-être. Est-ce que je vais pouvoir... contre qui je vais m'adresser d'ailleurs ? Est-ce que d'ailleurs vous avez gardé toutes vos tickets de caisse avec vos crèmes pour prouver que c'est à cause de tels produits que vous avez... Parce qu'au niveau juridique, il faut des preuves. Comment vous avez prouvé que vous, vous avez utilisé, vous avez gardé votre ticket de caisse ? Je ne pense pas. Donc, on prend, dans l'absolu, en théorie, il y a des possibilités. Parce que finalement, vous pourrez peut-être, dans 10 ans, utiliser des actions de groupe. Il y a des actions de groupe dans le droit de la consommation. C'est-à-dire, on prend un seul avocat, parce qu'on a des, on en prend un seul avocat, et c'est le seul avocat qui va porter l'affaire. Donc, ça existe en droit de la consommation depuis 2014. Il y a également des actions de groupe en matière, en code dans le, au niveau santé, au titre du code de la santé publique, depuis 2016. Donc des actions de groupe pour les dommages liés à la santé, donc notamment un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d'un produit de santé. Alors dans un autre registre, le développement des nano-objets pose-t-il alors des problèmes éthiques inédits, ce qui pourrait justifier l'émergence d'une nouvelle discipline en raison de leur spectre très large, ou ne fait-il en définitive que reposer sous d'autres formes des problèmes classiques déjà rencontrés à l'occasion d'autres types de technologies ? Dans le même sens, y a-t-il un renouvellement des problématiques bioéthiques ou une révolution scientifique appelant une nanoéthique, d'autant qu'il y a un changement d'échelle dans la réflexion bioéthique ? En 2011, tout à l'heure, on a parlé, M. Dorido, de la convergence NBIC. Donc, on s'est interrogé au niveau de la réforme du droit de la bioéthique, la seconde réforme du droit de la bioéthique, sur ce qu'était la convergence NBIC. Donc, nanotechnologie, biologie, information technologie and cognitive science. Donc, on s'est interrogé, qu'est-ce que c'est cette convergence NBIC ? Dans le même sens, le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe a proposé en 2015 de jouer un rôle dans la mise en place d'une réflexion politique et institutionnelle pour préparer le renouvellement de la norme en créant une nouvelle convention concernant les technologies émergentes dont font partie les nanotechnologies, englobé dans la convergence technologique, en particulier la convergence NBIC, pour assurer la sécurité des citoyens, des entreprises et de l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est cette convergence NBIC ? Il faut savoir que la terminologie n'est pas consensuelle, c'est assez énigmatique. Alors peut-être on peut utiliser cette définition, ce serait une fusion des domaines énumérés avec une finalité assumée, celle d'améliorer les performances humaines, individuelles et sociales. La convergence NBIC peut être illustrée par la création de plusieurs dispositifs dont beaucoup sont au stade expérimental qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Alors précisons que font les nanos là-dedans. Donc les nanos accroissent les possibilités techniques en aidant à miniaturiser les dispositifs en leur conférant de nouvelles fonctions ou propriétés. Alors certains dispositifs sont invasifs ou non. Alors on peut citer tout à l'heure, ça avait été évoqué, les puces à ADN, qui sont largement utilisées pour analyser le matériel génétique d'une cellule ou d'éléments issus d'une microbiopsie. Un exemple parmi d'autres est donné par une puce visant à repérer une dissémination tumorale dans des tissus ou cellules du sang, du foie ou de la moelle osseuse. Autre exemple, on a les biocapteurs qui sont apposés sur ou implantés dans le corps humain pour surveiller le fonctionnement des organes et l'équilibre physiologique, pour vérifier le dosage en médicaments ou encore pour délivrer une molécule thérapeutique. Et dernier exemple, la nanogélule, en cours de développement pour le dépistage précoce du cancer colorectal. Cette nanogélule à avaler, avec l'abopus embarqué, permet de détecter in vivo les marqueurs indiquant un cancer. Et la gélule dans le corps humain repère des fragments d'ADN de cellules cancéreuses. Et cette technique, si elle est validée, pourrait permettre d'être utilisée par toute personne à son domicile. Et on pourrait obtenir un diagnostic bien avant qu'une tumeur ne devienne visible. Alors, quels sont les questionnements par rapport à cette convergence NBIC ? En fait, elle suscite des questions d'ordre social ou éthique, notamment sur la finalité, l'opportunité de certaines de leurs applications, ainsi que sur les risques d'éventuelles dérives qui ont été évoquées par M. Dorido ce matin. Ça pourrait être le cas tout d'abord en raison du passage à des thérapeutiques réparatrices pour en donner lieu à l'amplification des performances du sujet sain et créer un risque d'émergence d'une nouvelle humanité, une société tendant vers le transhumanisme. Ça pourrait être le cas suite au développement de nouvelles formes émergentes de surveillance du corps, comme on a pu l'évoquer, rendant possible un environnement intelligent grâce aux nouvelles technologies permettant le recueil et l'analyse de données sur sa propre santé. Quid alors de la nécessaire protection de ces données sensibles ? Quid du risque d'une médicalisation excessive trop précoce ? Quid de la modification alors du rapport malade-médecin ? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Le Gros, pour cette très belle conférence. Comme quoi le droit rentre dans notre vie de tous les jours. Vous avez parlé de l'aspect théorique et ensuite l'aspect pratique. Et en effet, ce qui concerne le droit du travailleur, c'est très important. Mais maintenant, on peut se poser la question de savoir que faire avec tout ça. Vous en avez parlé aussi. Donc je pense qu'il y a des questions dans la salle. Monsieur Guchet.
Oui, merci pour cette... pour ce très intéressant panorama de la situation du droit par rapport aux nanotechnologies. Moi, je voulais vous poser une question sur le principe de précaution. Sauf erreur, si j'ai bien compris, le principe de précaution reste quand même fondé sur le concept de risque. Sauf qu'on n'a pas la connaissance du risque, il faut quand même agir, et donc se donner une régulation qui permette d'accumuler les connaissances, d'acquérir les connaissances qui permettront un jour de lever l'incertitude présente. Lorsque vous avez une situation telle que celle décrite par l'AFCET, donc avant l'ANSES, hein, l'AFCET, dans un rapport en 2010, où un test a été fait sur un polymère quelconque, bref, qui incluait des nanoparticules avec un vernis dessus, et le test constituait à poncer le matériau et à voir ce qui sortait. Et en fait, ce qui sortait, effectivement, c'était des particules fines, mais pas du tout les mêmes que celles qui avaient été incluses dans le matériau initialement. C'est-à-dire d'autres nanoparticules, d'autres particules fines avaient été mises. D'accord ? Et donc, par rapport à la question du principe de précaution, et qui recoupe d'ailleurs le problème que vous souleviez, hein, la preuve, comment apporter la preuve ? Quand vous avez émission de nanoparticules, donc des facteurs d'exposition, mais qui ne sont pas ce que vous avez mis au départ et que vous vous attendez à mesurer, que devient l'épidémiologie ? Que devient la métrologie ? Que devient la norme ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on régule, en fait ? Et effectivement, en bout de course, et je suis complètement d'accord avec vous, que devient la possibilité d'apporter une preuve de quoi que ce soit ?
Je ne sais pas trop quoi vous
répondre. Je rajoute que pour les particules, les nanoparticules sont caractérisées par toutes sortes de paramètres, un très grand nombre de paramètres. Je ne sais plus si ce n'est pas l'OCDE qui en avait listé 59, bon, une soixantaine, disons. On sait très bien que pour faire une étude approfondie sur chacun de ces paramètres, pour chaque nanoparticule, il faut des décennies. Donc on n'est plus sur du risque, là, on est carrément sur de l'incertitude assumée. Parce qu'on est dans des horizons et des coûts aussi de recherche qui ne sont pas proportionnés par rapport aux besoins des industriels et à la mise sur le marché, etc. Donc ça redouble le problème de cette instabilité ontologique, en quelque sorte, où on a quelque chose en entrée, mais pas la même chose à la sortie. Comment on régule dans une situation qui n'est pas celle d'un risque encore inconnu, qui n'est pas une situation d'insuffisance épistémologique, de manque de connaissance, mais qui est liée à la nature même, à l'instabilité même de ce qu'on cherche à réguler.
Je ne sais pas quoi vous répondre, puisque là, je vous ai donné toutes les pistes au niveau régulation, mais là...
Sur REACH, par exemple, je pense que même une rénovation, une révision de REACH, bon, je ne vois pas très bien ce que ça va changer au fond du problème qui, à mon avis, est là. Ce n'est pas le risque, c'est l'incertitude fondamentale à laquelle nous sommes confrontés. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, voilà, c'est une réalité. C'est pas forcément ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il ne faut rien mettre sur le marché, mais il faut l'assumer comme tel.
Il n'y a pas beaucoup de régulation souhaitée.
Moi, je me posais une question concrète. Est-ce que le fait de déclarer dépend de la taille de l'entreprise? Imaginons une petite entreprise où un travailleur travaille sur les nanos. Est-ce que son patron est obligé de déclarer l'entreprise est petite, il n'y aura peut-être pas de contrôle Voilà, c'est une question.
Bah là, je pense que même il y a certaines grandes entreprises qui ne doivent pas le faire. Voilà. Hein, je veux dire, c'est comme partout. Hein, dès lors qu'on veut éviter quelque chose, pour éviter que ce soit. Qu'on n'ait pas le temps. Non, je pense qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas eu de contention en disant on a découvert, vous n'avez pas fait. Ouais. Il n'y a pas de contentieux. Donc je pense que le jour où il y aura un contentieux, on aura peut-être une réponse sur la sanction. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Et il n'est pas indiqué, si vous ne le faites pas, il se passe quelque chose. Donc il faut déclarer. Et donc forcément, si on ne déclare pas, vous allez au contentieux, il y aura une responsabilité. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de contentieux. Donc je n'ai pas de réponse.
Non, juste une petite remarque sur tout ça. Je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Guchet sur la complexité inhérente. Elle est indéniable, mais elle n'empêche pas d'essayer de la réduire malgré tout cette complexité. Je crois quand même qu'on est passé des 59 paramètres de l'OCDE à 8 paramètres de l'ISO qui permettent quand même un petit peu mieux de qualifier. Alors ça reste très compliqué, effectivement, mais ça n'empêche pas de faire des choses malgré tout, même dans le cadre de REACH. Il y a le débat sur savoir si on doit aller tout de suite vers un nano REACH, un REACH spécifique pour les nanos, ou si on doit se contenter de l'application dans les annexes, etc. Ce débat, il n'est pas tranché parce qu'il y a aussi des lobbying qui s'exercent, etc. Mais ça n'empêche pas malgré tout, me semble-t-il, d'aller vers des démarches d'abord de réduction d'exposition systématique, notamment dans l'entreprise, parce que ça, c'est quand même des choses susceptibles d'être pris en compte. Vous avez, à mon sens, un tout petit peu minoré quand même l'ensemble des choses qui existent déjà. Les connaissances sur le fait que les EPI, les EPC, quand même, sont assez efficaces dans les équipements de protection individuelle ou collective. Ce qu'on en sait, c'est qu'ils restent assez efficaces malgré tout, même face aux nanoparticules. Donc, me semble-t-il, on peut quand même essayer de poser quelques jalons vers une forme de... C'est tout l'intérêt des démarches by design, etc. Vers une sorte de réduction de l'exposition. Et puis, je pense qu'il ne faut pas, même face à la complexité manifeste de cette situation, il ne faut pas abandonner l'idée d'un jour pouvoir résoudre cette complexité et d'arriver à la causalité, enfin, qu'il existe une causalité donc, qu'on connaîtra un jour, me semble-t-il. Enfin, j'ai l'impression que c'est les faisceaux de preuves, de petites connaissances qui s'accumulent pour aller
vers
cette connaissance des liens causaux. Quoi.
Quand ?
Bonjour. Je reste un peu sur mon idée de définition parce que pour moi, je suis désolé. Non, mais c'est très vague et puis là pour avoir réentendu d'autres définitions, je pose quand même la question pourquoi 100 nanomètres. Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison et si celui qui a eu l'idée, on lui reconnaît parce que c'est quand même repris partout. Et je trouve assez étonnant aussi qu'il ne soit tenté de faire qu'une seule définition. Les nanomatériaux, nanoobjets, c'est quand même quelque chose de très vague. On sait peu de choses pour pas mal d'entre eux, mais je pense que sur certains qui seront peut-être assez étudiés, on pourrait à partir d'eux définir de nouvelles catégories eux auraient une législation qui permettrait de les autoriser et d'interdire les autres en attendant.
Pour l'instant, on a des définitions sectorielles au niveau des règlements. Donc voilà, pour l'instant, c'est sectoriel, parce que moi, c'est très, très divers.
Les définitions, je me trompe peut-être, mais étaient plus sur l'utilisation, pas sur...
Non, les définitions que je vous ai citées, donc il y avait des définitions sectorielles. Est-ce que c'est un nanomatériau manufacturé en fonction de la... l'utilisation, non, de la cosmétique, biocide, voilà, donc c'est pas la même oui, définition.
Oui, d'accord. Enfin, je veux dire.
Donc, vous n'êtes pas pour une définition unique.
Non, très loin de là. Des matériaux nanostructurés avec en surface une rugosité périodique, choses comme ça, ce ne rentre pas dans la même chose qu'une matrice contenant des nanoparticules ou que des nanoparticules en suspension dans un milieu liquide, par exemple. Pour moi, c'est pas les. Je pense qu'en ne faisant pas ces différences, on se complique d'autant plus la tâche à essayer de résoudre tout le problème d'un coup.
Le juriste aimerait bien avoir une définition unique, parce que le juriste, il aime bien que ce soit clair. Mais malheureusement, je pense qu'effectivement, si on a fait des règlements avec des définitions sectorielles, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, je suis juriste, donc je peux pas vous répondre d'un point de vue science dure. Hein, donc,
Bonjour. Vous avez parlé du fait que si toutes les nanoparticules sont toujours inscrites sur la composition de ce que l'on consomme, à ce moment-là, le fait de choisir ces consommables fait que l'on accepte les risques du fait de notre choix et du fait d'avoir connaissance.
Le jour où, sur tous les produits où il y a des nanotechnologies, des nano-objets, on aura cette mention, je pense que forcément, lorsque vous irez au contentieux, il y aura une minoration de la responsabilité de celui qui a produit, qui a fait ces produits. C'est évident, c'est comme ça que ça marche en droit.
D'accord.
Vous prenez le risque, donc vous saviez. Vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ».
D'accord.
Donc, je ne dis pas qu'il y aura une exonération totale du producteur, je vous dis qu'il y aura peut-être un partage de responsabilité. Parce que justement, va s'ajouter à ça le fait qu'on ne savait pas, mais qu'il y avait un risque. Donc, je pense qu'il y aurait une partie de la responsabilité du producteur, mais quelque part, votre dommage, l'évaluation de votre dommage sera minorée parce que vous saviez. Dès lors qu'on vous prenez le risque, vous êtes fautif quelque part également. Il y a un partage de responsabilité.
D'accord. Et de notre génération actuellement, ce n'est pas le manque d'informations. Au contraire, on a tendance à avoir une surabondance d'informations dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Et est-ce que vous pensez que cette façon de voir les choses est toujours aussi valable maintenant qu'on est exposé à énormément d'informations et qu'au contraire, elle risque de se noyer ?
Quand on dit souvent en droit médical, la surinformation tue l'information. Et ça vaut en général dans tous les domaines. Effectivement, mais malheureusement, si vous l'avez reçu, vous ne pouvez pas dire, même si c'est en petite ligne, en tout petit, parce qu'il faut une loupe, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez eu l'information. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément généralisation de ces mentions nano entre crochets. Pour l'instant, vous avez de la marge. Vous n'avez pas encore le risque accepté, vous ne le savez pas. Pour le moment, vous ne le savez pas.
Et puis la surinformation, ça dépend aussi de ce qu'on fait. Je pense que les étudiants considèrent peut-être qu'ils sont surinformés, mais le grand public, lambda, les nanos, on en a déjà parlé, ça ne leur parle pas forcément, comme disait M. Dorigeau.
Je crois que ça fait
matin.
Peur.
Exactement. Le terme dire, nano déjà fait
la
peur.
La semaine dernière, j'ai voyé quelqu'un qui, je lui disais, il m'avait dit, j'ai vu une nano sur des médicaments, des pastilles pour la toux. Et il était marqué nano. Alors je lui ai dit, vous avez fait quoi? Il m'a dit, je ne l'ai pas acheté. Le fait qu'il y ait nano, il ne l'a pas acheté. Et donc, comme il n'aurait pas eu l'information, il l'aurait acheté. Mais là, il ne l'a pas acheté. Donc, il y a eu un rejet. Donc, peut-être qu'il y aura un rejet dans la salle le jour où ils verront bien. Et on ne sait pas. Et après, ça dépend du public, effectivement. Il y en a qui ne vont peut-être pas se préoccuper du fait qu'il y ait la mention nano. Parce que nano, c'est quoi? Si on le vend, c'est que c'est bon pour la santé. Parce que si ce n'était pas bon pour la santé, on ne le mettrait pas sur le marché. Je dirais quelqu'un qui ne s'intéresse pas en général à ça, il va dire c'est autorisé. C'est pourquoi ils le vendent si c'est pas bon. Il ne se pose pas, voit pas de là, je pense.
Je ne sais pas si M. Guchet en parlera, mais il y a eu des lanceurs d'alerte sur les nanos, à part les grandes messes de nos amis.
J'ai pas eu trop d'informations sens. Ça reste inter-entreprise.
Oui.
Parce qu'il y a aussi le secret industriel, faut pas l'oublier. Pour le chose qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il y a le secret industriel, il y a les brevets potentiels et on n'a pas envie de diffuser. Et c'est pour ça que dans ces réglementations où vous devez informer, déclarer, il y a des exceptions par rapport au secret industriel. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont fermées parce que pour protéger le producteur, celui qui a créé l'objet où il y a des nanos, parce que forcément, il n'a pas envie que le voisin, son industriel voisin, le sache. Donc, en gros, il y a ça.
Bon. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, madame. C'était passionnant. Merci. À tout à l'heure.
Il y a une reprise à 15h30, donc vous avez, je crois, une pause café. Et puis, revenez à 15h30.